Africa Radio, l'invité, Nadir Djennad.
Sédic Abba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, écrivain, chercheur, associé et président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Vous avez publié dernièrement « Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger », histoire secrète de la rupture Sani Koutché, Boulama Manga, aux éditions L'Harmattan. Au Niger, une manifestation a eu lieu dimanche dernier à Gadez, ville du Nord, qui abrite une base militaire américaine. Plusieurs centaines de personnes réclamaient le départ des soldats américains à l'appel d'organisations de la société civile. Les États-Unis ont accepté le 19 avril dernier de retirer leurs plus de 1000 soldats opérant dans le pays, un mois après que les autorités de Niamey ont dénoncé avec effet immédiat les accords de coopération militaire avec Washington. Sédic Abba, est-ce un coup dur, voire une humiliation pour les États-Unis ?
Ah, on peut estimer que c'est un coup dur pour les États-Unis parce que cette présence au Niger va bien au-delà du seul pays. Elle lui permet aux États-Unis d'avoir une position géostratégique importante qui permet à la fois de surveiller l'Afrique du Nord puisque la base aérienne la plus importante, la base 201, située à Agadez, permet d'avoir un œil sur l'Algérie, un œil sur la Libye, un œil sur l'Afrique du Nord, ensuite un œil sur l'Afrique subsaharienne. De ce point de vue-là, pour les États-Unis, c'est un grave revers que de partir du Niger parce que ça leur évite d'avoir une présence sahélienne très importante. Mmh. Et la perspective aussi que la Russie vienne à la place des États-Unis ajoute un peu à ce sentiment d'humiliation et de regret que les États-Unis ont à partir du Niger aujourd'hui.
Oui, alors contrairement à la position stricte de Paris, Washington s'est montré conciliant à la suite du coup d'État de juillet dernier, qu'il n'a qualifié comme tel que deux mois plus tard, et depuis les négociations entre les deux parties n'avaient pas cessé. Est-ce que les États-Unis ont sous-estimé les militaires nigériens en pensant qu'ils ne subiraient pas le même sort que la France ?
Tout à fait, on peut le dire de façon très claire que la position accommodante des États-Unis visait justement à leur éviter la situation qui a fini par leur arriver. En ayant une posture plus conciliante, plus bienveillante envers les militaires, les États-Unis avaient la conviction qu'ils réussiraient à sauver les deux bases. Il y a une base, la base 101 à Niamey, et la base 201. Finalement, cela n'a pas suffi. Oui. Ils ne se sont pas mis dans une posture de confrontation avec la junte. Mais visiblement, cela n'a pas suffi puisque comme les Américains ont continué à exiger un agenda de transition avec un contenu de transition, cela a entraîné la dégradation des relations entre les Américains et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à Niamey.
Est-ce que la dernière réunion américano-nigérienne au mois de mars dernier est à l'origine de la décision de Niamey de rompre définitivement avec les États-Unis ? Sur le plan
on
militaire,
peut le dire,
en tout cas.
Ça a accéléré la dégradation des relations, puisque la sous-secrétaire d'État en charge de l'Afrique, avec le commandant de AFRICOM, le commandement américain, central américain pour l'Afrique, était venu à Niamey, avait rencontré le Premier ministre, mais n'avait pas réussi à rencontrer Tchani lui-même, le général Tchani, en raison justement de l'agenda des Américains. Les Américains voulaient un calendrier de transition, un délai de transition avec un retour du pouvoir civil. Pour l'instant, cela n'est pas sur l'agenda des militaires qui ont renversé Bazoum et cela a créé une confrontation et a accéléré justement la dégradation des relations et l'aboutissement justement de cette demande de départ, l'exigence d'un calendrier de retrait.
Alors, rappelons que les États-Unis comptent quelques 1100 soldats engagés dans la lutte anti-djihadiste au Niger et disposent d'une importante base de drones à Agadez. Alors, quelles peuvent être les conséquences de ce départ des troupes américaines pour le Niger ?
Oui, il faut être honnête. J'entends ici et là dire que cette présence n'a eu aucune valeur ajoutée. Ce n'est pas tout à fait exact. Les forces spéciales américaines ont formé des éléments nigériens de force spéciale. Je rappelle qu'en octobre 2017, il y a eu 4 soldats, 4 bérets verts américains qui sont morts sur la frontière, la zone des 3 frontières entre le Niger, le Burkina et le Mali, parce que les Américains, justement, font de la formation aux forces spéciales nigériennes et ont fourni de l'équipement aussi, ont fourni aussi de moyens de transport de troupes. 2 Hercules C-130 au moins ont été donnés. Donc tout cela peut dire que, il y a quand même des implications de cette présence. En plus de cela, il y a l'effet dissuasif.
Oui.
Depuis que les Américains se sont installés en 2013, juste après l'attaque de In Amenas en Algérie en janvier 2013, depuis que les Américains se sont installés dans cette zone, il n'y a pas eu de grande attaque contre le Niger parce que les groupes djihadistes réfléchissent par deux fois avant d'opérer.
Oui.
Où il y a une présence américaine, ils se disent que les Américains pourraient réagir.
Vous avez évoqué la Russie, donc cela veut dire que selon vous, le Niger peut se tourner vers Moscou sur le plan militaire comme l'ont fait le Mali, le Burkina Faso?
Oui, c'est déjà presque fait, puisqu'il y a eu récemment, il y a 2 semaines, ou moins que ça, et l'arrivée du matériel russe pour la surveillance aérienne, de la défense anti-aérienne qui a été apportée, avec une centaine d'instructeurs qui vont accompagner les Nigériens dans la maintenance, dans l'usage et la maintenance de cet équipement. Donc, il y a aujourd'hui une perspective de renforcement de la coopération militaire avec la Russie qui s'est traduite par l'échange de délégations. Le Premier ministre nigérien s'est rendu à Moscou, le vice-ministre russe de la Défense est arrivé à Niamey. Et donc, il y a une perspective de développement, justement, dans le cadre du partenariat bilatéral et aussi dans le cadre de l'alliance des États du Sahel que le Niger a formée avec le Burkina et le Mali.
Pensez-vous qu'une force conjointe entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso va voir le jour? Rappelons que ces pays ont créé une alliance des États du Sahel.
Oui, il est prévu dans l'alliance qui est dans la charte de l'UPTACO, qui crée l'alliance du Sahel, une architecture de défense commune. Ça veut dire une mise en place de forces communes. À mon avis, en attendant cela, ils vont travailler ensemble pour améliorer les relations de coopération. Et il s'est passé déjà des opérations bilatérales, militaires conjointes, mais c'est en raison de la dégradation des relations entre Niamey et Bamako, entre Niamey et Ouagadougou, puisque le Niger de Bazoum avait choisi comme allié la France, alors que la France a rompu avec le Mali et le Burkina. Ces opérations militaires bilatérales avaient cessé. Maintenant, avec la création de l'Alliance du Sahel, il y a une volonté de travailler ensemble. Et en attendant la force commune qui nécessite des moyens que pour l'instant ces pays n'ont pas, il y a cette démarche bilatérale, cette coordination du renseignement, cette volonté d'avoir des programmes communs. Vous savez ce que les djihadistes font? Ils attaquent le Niger, ils passent au Burkina, et comme ils
Oui.
savent qu'il n'y a pas de coordination entre les pays, ils se jouent des frontières. Donc maintenant, si les pays travaillent ensemble sur la frontière avec des brigades mixtes nigéro-maliennes, nigéro-burkinabé, c'est déjà une avancée importante en attendant qu'il y ait une force opérationnelle conjointe avec une interopérabilité, parce que les armées n'ont pas la même opérabilité. Donc il faut travailler tout cela qui peut prendre du temps. Mais en attendant cela, ils peuvent au moins commencer à travailler de façon plus intelligente ensemble.
Sadiq Abba, quel bilan dressez-vous de l'action des militaires nigériens depuis qu'ils ont renversé Mohamed Bazoum en juillet dernier?
Oui, on sent qu'il y a une volonté, puisque les militaires eux-mêmes ont justifié le coup d'État par deux promesses. La promesse d'une amélioration de la situation sécuritaire. De ce point de vue, il y a encore des efforts à faire. Quelques acquis tactiques, notamment aujourd'hui, la possibilité, la décision militaire vient exclusivement aux Nigériens. À partir du moment où les forces étrangères sont parties, et le choix des orientations stratégiques militaires sur le terrain revient exclusivement aux Nigériens. Ça, on ne peut pas le négliger.
Oui.
Maintenant, il y a aussi la promesse de la lutte contre la gouvernance, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Ils ont créé une commission,
Oui.
COLDEF, la commission de lutte contre la délinquance économique et fiscale, mais pour l'instant, on attend encore le résultat. Je crois que le plus grand défi des militaires, c'est qu'ils n'ont pas encore réussi à donner une orientation claire. Pour l'instant, il n'y a pas de calendrier de transition, de contenu de transition, de durée de transition. Et cela, cette absence d'orientation affecte un peu comment dire, la crédibilité de leur action. Je crois qu'il faut qu'ils travaillent vite, puisque dans quelques jours, on va arriver au 9e mois
Oui.
du coup d'État, et pour l'instant, on ne voit pas le pays a appris.
Merci beaucoup, Sédic Abba, d'avoir répondu à nos questions.
Je
Merci.
vous en prie. Bonne
Merci.
continuation. Merci.
Merci
Merci de votre invitation.
à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, chercheur associé et président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Vous avez publié dernièrement Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger, Histoire secrète de la rupture, Seni Kouché, Boulama Manga aux éditions L'Harmattan.
Retrouvez l'invité Africa Radio en podcast et sur africaradio.com avec Nadir Djennad.